Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle est montée très haut, puis tombée très bas. Je vous parle de la marquise Louisa Casati. Et vous le savez très bien, puisque c'est vous, Stéphane, maintenant, qui allez nous raconter sa folle vie.
C'est une silhouette fantomatique qui hante les rues brumeuses du Londres des années 50. On ne distingue pas son visage, dissimulé derrière un voile noir, penché sur les poubelles qu'elle fouille dans l'espoir d'y découvrir un joli bout de tissu ou un objet précieux. Qui peut imaginer, en la voyant, que cette femme a autrefois vécu dans l'opulence la plus extravagante et régné pendant des décennies sur la vie mondaine et artistique européenne. En réalité, elle a même été marquise, la marchesa Luisa Casati, Stampa di Soncino, l'une des plus grandes fortunes d'Italie. Pour la rencontrer, il faut remonter le temps. Luisa naît en 1880 à Milan. Son père est un capitaine d'industrie textile que le roi d'Italie Umberto Ier a fait comte. Alberto von Amann, il est d'ascendance autrichienne, acquiert la Villa Amalia en Lombardie alors que Luisa n'a que 6 ans. La petite fille grandit dans le luxe, mais ses deux parents disparaissent alors qu'elle est encore une adolescente. Luisa est seule et triste. En 1900, à 19 ans, elle épouse Camillo, marquis de Casati, rejeton d'une grande famille de la noblesse italienne. Ensemble, ils ont une petite fille, mais la marquise n'est pas faite pour la vie familiale bien rangée. Les dîners de la bonne société l'ennuient profondément. Luisa a de l'argent, elle a des titres, mais elle en veut plus. 3 ans après son mariage, la jeune femme rencontre Gabriele D'Annunzio, le grand écrivain populaire de 20 ans son aîné. Ils deviennent amants. « C'était la seule femme qui m'émerveillait », dit le poète, pourtant connu pour ses multiples conquêtes. Ensemble, ils prennent de la cocaïne, rêvent d'un monde tout entier dépourvu de médiocrité. Fuir la banalité est sans doute la devise de Luisa Casati. En 1910, elle s'installe à Venise, au Palazzo dei Leoni, sur le Grand Canal, qui est aujourd'hui le musée Peggy Guggenheim. Elle le décore d'oiseaux exotiques empaillés, de squelettes de dinosaures, de statues égyptiennes. Rien n'est trop extravagant pour celle qui se promène, dit-on, la nuit dans les rues de la ville, nue sous son manteau de fourrure, entourée de ses deux guépards, un boa constrictor autour du cou. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls animaux de sa ménagerie extraordinaire, qui compte aussi 2 pans blancs, et des merles albinos que leur maîtresse teint de couleurs différentes selon le thème de la soirée qu'elle donne. Plutôt que de soirée, il faut parler de fêtes extraordinaires. Sur le perron de la Villa Vénitienne accostent les gondoles chargées des plus grands artistes d'Italie et d'Europe, les danseurs Vaslav Nijinsky, la danseuse Isadora Duncan. Et en 1917, c'est dans son palais romain que Luisa reçoit Pablo Picasso. Le peintre décrit le spectacle grandiose de la salle à manger illuminée par des braseros. Des valets en habit du XVIIIe siècle y jettent de la limaille de cuivre sur les flammes pour les rendre vertes. La marquise Casati ne donne pas de dîner, elle offre des performances. Le boa est toujours là, endormi sur une peau d'ours polaire. La fête continue, mais la marquise ne l'est plus vraiment. Luisa s'est séparée de son mari voilà 3 ans. Elle ne divorcera vraiment que bien des années plus tard. Elle peut malgré tout garder son nom et son titre. Elle cherche à s'oublier dans la fête et le spectacle, mais sa démarche est plus ambitieuse encore. La Casati veut se mettre en scène au point de devenir, selon ses propres mots, une œuvre d'art vivante. Pour se transformer, elle revêt d'abord les créations des plus folles des grands couturiers de son temps, de Paul Poiret à Mariano Fortuny. Un soir, c'est une robe de plumes d'aigrette qui tombe au fur et à mesure de la soirée jusqu'à la laisser presque nue, à minuit. Le lendemain, c'est une coiffe de plumes de paon trempée dans du sang de poulet fraîchement tué. Ses toilettes sont des tenues de scène. Elle fait d'ailleurs appel aux costumiers des ballets russes pour les lui dessiner. Parfois, les créations sont presque des manifestes artistiques, comme ce vêtement composé de petites ampoules qui lui donnent des décharges électriques. Luisa Casati est fascinée par l'art. Son ami Alberto Martini lui présente les milieux de l'avant-garde et de la bohème. Futuristes italiens, surréalistes, louent son esthétique extravagante. Pour accentuer sa transformation physique, Luisa teint ses cheveux courts en rouge, blanchit son teint et verse des gouttes de belladone dans ses yeux verts brûlants pour en dilater les pupilles. Et pour immortaliser sa transformation, elle passe commande aux plus grands artistes de sa génération. Man Ray et Adolphe de Meyer la photographie, Giovanni Boldini la peint, Jacob Epstein la sculpte dans le bronze. Luisa Casati devient la femme la plus représentée de son temps sur plus d'une centaine d'œuvres en tout genre. Régulièrement, la Casati s'en tige d'un artiste et lui commande assez de toiles pour le faire passer de la misère à la richesse. En 1923, Louisa achète le Palais Rose au Vésinet, à l'ouest de Paris. Au Ritz, la marquise entretient amant et amante et crée des répliques d'elle-même en cire, coiffée de perruques de ses propres cheveux. Mais ces extravagances ont un prix. Les dettes s'accumulent. Louisa ne veut pas les voir. La crise de 29 aggrave encore sa situation. La marquise a 50 ans et doit des centaines de milliers de francs. Alors elle vend la villa Amalia, les parts qu'elle détient encore dans les usines familiales, le Palais Rose. Louisa, qui a toujours été fascinée par l'occulte et tient des séances de spiritisme, pense être poursuivie par des démons. Ce sont plutôt les créanciers. La marquise se croit-elle à l'abri et protégée? Un jour de 1932, Louisa Casati signe un chèque sans provision et sa vie bascule à tout jamais. La marquise est poursuivie en justice. Elle écope de 2 mois de prison ferme. Ses biens sont condamnés à être liquidés. Louisa Casati envoie un message à son ancien amant Gabriele D'Annunzio, injurié et désespéré. « Câblez-moi 10 000 lire ». Un message qui restera sans réponse. Le 17 décembre 1932, elle assiste impuissante à la dilapidation de tous ses biens sous les coups de marteau implacables du commissaire-priseur. Argenterie, porcelaine, robe, mobilier Louis XVI, jusqu'aux mouchoirs brodés et aux gants de toilette, tout y passe. Sentant venir la chute, Louisa Casati a bien essayé de trouver un nouveau mari. Elle est même allée jusqu'à New York rencontrer un homme suffisamment riche. Pour se montrer à la hauteur de sa réputation, elle a loué un reptile contre une grosse somme d'argent aux eaux de Central Park. La manœuvre n'a pas fonctionné. Louisa est repartie seule. Cette année-là marque sa dernière apparition mondaine et la fin de ses aventures sentimentales. Pour échapper à la prison, la Casati se réfugie en Angleterre. Elle vit, ou plutôt survit, de la générosité de ceux qu'elle a autrefois tant subventionnés. Le peintre Augustus John l'accueille à Londres et la peint une dernière fois. En 1954, Cecil Beaton, celui qui a immortalisé la reine Elisabeth II pour le cliché officiel de son couronnement un an auparavant, la prend en photo. À plus de 73 ans, la vieille marquise porte sa main devant son visage pour se dérober à l'objectif. 3 ans plus tard, Louisa Casati meurt d'une attaque cérébrale dans son petit appartement d'une seule pièce au cœur de la capitale anglaise. Elle est enterrée avec son chien préféré, un Pékinois embaumé et une paire de fossiles, maigre témoignage de son passé extravagant. Mais que la Casati soit rassurée, ses incroyables performances ont suffisamment marqué le siècle pour qu'on s'en souvienne encore aujourd'hui. Son personnage a autant inspiré les écrivains, y compris Jacques Kerouac, qui lui consacre un poème, que les créateurs de mode contemporains, de John Galliano à Sonia Riquiel. Pour certains, Louisa Casati serait même la véritable inspiratrice des exubérances de Lady Gaga. Muse, mécène, sans la divine marquise en tout cas, sans ses frasques et son absolue incapacité à gérer son argent, plusieurs des très grands noms du XXe siècle n'auraient sans doute pas pu vivre de leur art.
Europe 1, historiquement vôtre.